dire ce que disait Lupe à Rivera dans la cabine. Il entendait sans les comprendre les vaticinations de sa sœur, qui ne cessait de s'étendre sur Dieu sait quel sujet. Il pensa d'abord qu'elle parlait de Blanc-Sal. Rivera avait donné le petit cabot aux allures de rat à une famille de guerreros, mais il revenait tous les jours, sans doute à la recherche de Lupe. À présent, il avait disparu. Inutile de dire que Lupe vituperait impitoyablement contre Rivera. Elle savait très bien où Blanc-Sal irait, et irait mourir, voulait-elle dire. « Là où vont les chiots ?» avait-elle précisé. Depuis la benne, Juan Diego n'entendait que des bribes des réponses de Rivera. « Si tu le dis, j'aurais pas mieux dit Lupe. » Et ce jusqu'à Guerrero, où Juan Diego commença à voir les panaches de fumée isolés. Plusieurs bûchers étaient déjà allumés sur la décharge toute proche. Ce qu'il entendait, déformé sans doute de la conversation à sens unique, rappela à Juan Diego les moments où il étudiait la littérature avec Edward Bancho dans une des salles de lecture de la bibliothèque, à l'orphelinat. En fait d'étudier la littérature, il s'agissait de lire à haute voix. Edward Bancho commençait par lire un roman pour adultes à Juan Diego. Ainsi, ils déterminaient ensemble si le livre convenait à son âge. Bien entendu, il y avait entre eux certaines divergences sur le chapitre. « Et si le livre me plaît vraiment, alors ? Et si je me dis que, pour le cas où j'aurai l'autorisation de le lire, je le dévorerai d'un trait ?»« Ça ne prouverait pas que le livre soit approprié à ton âge, pour autant, » répondait Bancho à l'adolescent. Parfois, il s'interrompait dans sa lecture, laissant ainsi présager qu'il allait sauter des passages où il était question de sexe. « Vous êtes en train de me censurer une scène érotique, » lançait Juan Diego. « Je ne suis pas convaincu qu'elle soit convenable. » Il s'était mis d'accord pour aborder Graham Greene. Les questions de la foi et du doute étaient sans équivoque celles qui préoccupaient le missionnaire au tout premier chef et n'étaient pas étrangères à ses mortifications. Quant à Juan Diego, il aimait les passages liés au sexe chez Graham Greene. Même si l'auteur avait tendance à le reléguer dans le non-dit, ou à n'y faire que des allusions discrètes. Maître et élève travaillaient comme suit. Edward Bancho commençait par lire le roman à haute voix, puis Juan Diego prenait la relève et le finissait. Enfin, l'adulte et l'adolescent discutaient de l'intrigue. Edward aimait beaucoup citer certains passages et demandait à Juan Diego ce que l'auteur avait voulu dire. Une phrase de « La puissance et la gloire » avait suscité un échange prolongé et récurrent. L'un et l'autre s'en faisaient une idée très contrastée, à savoir, il vient toujours un moment dans l'enfance où la porte s'ouvre pour laisser entrer l'avenir. « Comment comprends-tu cette phrase, Juan Diego ? Est-ce que, selon Green, notre avenir commence dans l'enfance et il nous faut être attentif à... que l'avenir commence dans l'enfance, bien sûr. Où commencerait-il sinon ? Mais c'est une connerie de dire qu'il y a un moment et un seul où la porte s'ouvre à l'avenir. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des tas de moments et puis il dit la porte, comme si c'était la seule ?» Graham Greene ne dit pas de conneries, Juan Diego, s'était écrié Bancho, qui serrait un petit objet dans sa main. Je la connais, votre pièce de mahjong, pas la peine de me la ressortir. Je sais, vous êtes tombé, le petit morceau de bambou et d'ivoire, vous a écorché le visage, vous avez saigné, Béatrice vous a léché, et c'est pour ça qu'on l'a abattu, je sais. Mais c'est ce moment-là et aucun autre qui vous a donné envie d'être prêtre? Cette porte ouverte sur l'abstinence de toute une vie, elle ne s'est ouverte que parce qu'on avait abattu Béatrice? Il a dû y avoir d'autres moments décisifs dans votre enfance. Vous auriez pu ouvrir d'autres portes. Et vous pourriez encore du reste, non? Qui dit que de cette tuile de mahjong doivent dépendre toute votre enfance et votre avenir? La résignation, Juan Diego la lisait sur le visage d'Edward Bancho. Il semblait accepter son lot de chasteté, d'autoflagellation et de prêtrise. Tout ça à cause d'une pièce de mahjong dans sa menotte. Une vie entière à se flageller et à s'interdire le sexe parce que sa chienne bien-aimée avait été abattue par des hommes cruels. La résignation, Juan Diego l'a lue aussi sur le visage de Rivera, lorsque El Jefe fit marche arrière vers la maison qu'ils partageaient du temps où ils formaient une sorte de famille et vivaient ensemble à Guerrero. Juan Diego était bien placé pour savoir ce qu'il en était de ses pseudo-conversations avec Lupe, qu'on la comprenne ou pas. Elle avait toujours une longueur d'avance, et même si elle était le plus souvent incompréhensible, elle était la seule à savoir certaines choses. C'était une enfant, mais Elle argumentait en adulte. Il lui arrivait de tenir des propos qu'elle ne comprenait pas elle-même. Les mots lui venaient comme ça, disait-elle. Parfois, avant même qu'elle ait conscience de ce qu'ils signifiaient. Il faut brûler le brave Gringo avec maman. Brûler le nez de la Vierge avec eux. Un point, c'est tout. Et pour finir, disperser leurs cendres à Mexico. Et voilà qu'Edward Bancho, pétri de bonnes intentions, lui recrachait Graham Greene, un autre catholique, ce Greene, torturé par la foi autant que par le doute, c'est clair, prétendant qu'il n'y avait qu'un seul moment où la porte et une seule merde, s'ouvrait pour laisser entrer l'avenir. « Seigneur Dieu !» marmonna Juan Diego en s'extirpant de la benne du pick-up. Ni Loupé ni Rivera ne se figurèrent qu'il priait. « Attendez-moi une minute, » dit Loupé. Elle s'éloigna d'un pas délibéré et disparut derrière la bicoque qui avait été leur foyer. « Elle a envie de pisser, » pensa Juan Diego. « Non, j'ai pas envie de pisser, » lui cria Loupé. « Je cherche Blancsal. » « Elle est allée faire pipi, ou bien il vous faut de nouveaux pistolets à eau ?» demanda Rivera. Juan Diego haussa les épaules. « Il faudrait qu'on commence à brûler les corps avant de voir rappliquer les jésuites, » fit observer Réfé. Loupé revint, un chiot mort dans les bras. Elle était en larmes. « Je les trouve toujours au même endroit, ou presque, » sanglotait-elle. Le chiot mort n'était autre que Blancsal. « On va brûler Blancsal avec votre mère et le hippie ?» s'enquit Rivera. « Si vous me brûliez, j'aimerais que ce soit avec un chiot, » répondit Loupé entre deux sanglots. Juan Diego jugea que cette déclaration méritait d'être traduite. El Jefe n'accorda pas un regard au chiot mort. Il ne l'avait jamais aimé, ce Blancsal. Il estimait sans doute heureux que ce méchant avorton n'ait pas chopé la rage et qu'il n'ait pas mordu Loupé. « Je regrette vraiment que l'adoption ait raté, » dit-il à Loupé, quand la fillette fut revenue s'installer sur le siège passager du pick-up, le petit chien mort tout raide dans ses bras. Lorsque Juan Diego eut rejoint Diablo dans la benne, Rivera se dirigea vers le basurero. Il s'approcha en marche arrière du feu le plus vif. Il se hâta de sortir les deux corps pour les arroser d'essence. « Blancsal a l'air trempé, » constata Juan Diego. « Il l'est, » dit sa sœur, qui le coucha sur le sol à côté des deux autres sacs. Rivera versa de l'essence sur le chiot mort avec le plus grand respect. Les adolescents tournèrent la tête au moment où ils jetaient les corps dans le brasier, et aussitôt on vit s'élancer des flammes plus hautes. Quand ce fut un feu d'enfer, El Jefe profita de ce que Loupé avait toujours le dos tourné pour jeter le minuscule chiot dedans. « Il vaudrait mieux que je déplace le pick-up, » déclara-t-il. Les jeunes avaient déjà remarqué qu'ils s'étaient abstenus de faire réparer le rétroviseur latéral. Ils s'étaient engagés à le laisser en l'état exprès pour que le souvenir le torture. « En bon catholique, » pensa Juan Diego, tout en le regardant éloigner le véhicule de l'incandescence soudaine du bûcher funéraire. « C'est qui le bon catholique ?» demanda Loupé à son frère. « Arrête de lire dans mes pensées. J'y peux rien. » Pendant que Rivera était au volant du pick-up, elle ajouta « C'est le moment de jeter le grand nez au feu. » « Je vois pas à quoi ça rime, » dit Juan Diego, qui s'exécuta tout de même. « Il était temps, » annonça Rivera en rejoignant le frère et la sœur, que la chaleur avait fait reculer. « Voilà les jésuites !» Frère Pépé arrivait en effet à toute allure dans sa Volkswagen rouge poussiéreuse. En les revoyant, dans son souvenir, descendre de voiture, Pépé en premier, suivi d'Octavio et d'Alfonso, les deux prêtres indignés, et derrière eux un Edward Bancho muet de stupeur, Juan Diego eut la vision de quatre clowns entrant sur la piste. Le bûcher funéraire dispensait les enfants de tout aveu. Ils ne dirent rien, mais Loupé décida qu'il n'y avait pas de contre-indication à chanter. « Oh, faites lentement rouler les tambours et soufflez dans les fifres en sourdine, pour jouer la marche funèbre quand vous m'emporterez. » Esperanza n'aurait jamais voulu être incinérée, commença le père Alfonso, mais le patron de la décharge ne lui permit pas d'en dire plus. C'est la volonté de ses enfants, mon père, c'est comme ça. Nous, on brûle tout ce qu'on aime, dit Juan Diego. Loupé souriait, sereine. Elle regardait s'élever les colonnes de fumée qui s'effilochaient au loin, tandis que les vautours planaient à l'horizon. Dans la vallée, menez-moi, et de terre couvrez-moi,